CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Il mesure 15 cm, il est tout doux, il est agréable. Non, calmez-vous, je parle juste de Pompi parce qu'en plus il est tout blanc. C'est une peluche adorable que vous pouvez vous procurer et que l'on met aussi dans les camions des pompiers pour apporter un petit peu de réconfort aux enfants qui sont pris en charge. On va tout vous expliquer avec l'Union départementale des pompiers du Lot en compagnie de Joël Conche qui sera notre deuxième invité. Mais dans un premier temps, on parle culture. Bah oui, les théâtres sont fermés, les salles de cinéma aussi, et certains occupent même des endroits de spectacle. On a vu la cérémonie des Césars qui était pour certains complètement pathétique et pour d'autres revendicatif. Qu'en est-il exactement de la part du côté du gouvernement? Nous le saurons avec Huguette Tienna, députée de la deuxième circonscription du Lot, qui est notre première invitée et qui nous donne son point de vue sur la situation que rencontre la culture. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est votre mag. Bonjour Huguette Tienna.
Bonjour CFM Radio.
Alors dites-moi, en tant que députée du Lot, vous avez envoyé un communiqué de presse concernant le soutien à la culture. C'est vrai que la culture est plutôt malmenée depuis quelques mois. Est-ce que vous comprenez quand même la détresse des acteurs justement de la culture, surtout quand on voit le cri qu'ils ont poussé durant la cérémonie des Césars, par exemple?
Je comprends la détresse du monde de la culture dans un contexte de crise sanitaire où les lieux culturels ont été fermés, où les cultures n'arrivent plus tellement à s'exprimer. Je parle des artistes qui n'arrivent plus à mener leurs actions, et je parle aussi des festivals qui ne peuvent plus faire des manifestations, des salles de cinéma qui sont fermées. Donc oui, on peut comprendre la détresse, mais ça dépend de la façon dont les uns et les autres vivent.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces artistes, et notamment à ceux du Lot, hein, même si vous dites qu'on a été énormément touchés par la pandémie, que pouvez-vous leur dire pour les rassurer?
Je veux leur dire, notamment aux artistes du Lot, qu'ils ont tout à fait notre soutien, que depuis le début de la crise, nous avons mis en place des mesures d'urgence. Par exemple, l'année blanche pour l'intermittence ou l'activité partielle ainsi que l'exonération des charges, parce que nous savons justement que la fermeture de certains lieux ou de certaines activités a vraiment fait beaucoup de mal, on va dire, surtout dans notre département rural tel que le Lot. Donc, je veux leur dire que nous mettons en œuvre tous les moyens possibles pour leur soutenir. Il y en a qui ont eu le fonds de solidarité et aussi un fonds de soutien au cinéma qui s'élevait à 115 millions d'euros. Dernièrement, la ministre a parlé dans le cadre du plan de relance des 2 milliards d'euros pour le monde de la culture. Il y a aussi aujourd'hui des nouvelles mesures, dont les 20 millions d'euros supplémentaires. Donc, avec tous ces soutiens, nous les invitons vraiment à tenir bon, et aussi qu'en perspective, nous sommes en train de travailler avec les différents syndicats pour justement permettre bientôt l'ouverture du monde de la culture.
Huguette Tienna, il y a une étude dernièrement qui a montré que les salles de théâtre, par exemple, n'étaient pas des zones de propagation. On a un peu de mal à comprendre, en fait, finalement, et le secteur concerné en premier, d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi finalement on ne les ouvre pas, ces salles, puisque ce n'est pas là que l'on attrape la Covid. Qu'est-ce que vous répondez à cette remarque?
Alors, toutes les études en cours concernant les lieux possibles de transmission permettent effectivement d'affiner la réflexion du gouvernement quant à l'ouverture des lieux culturels et quant à la tenue des festivals. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a de belles perspectives, puisque la ministre Bachelot a annoncé justement que très prochainement, et elle était en train de travailler sur les protocoles pour pouvoir les ouvrir. Et là où je suis d'accord avec vous, quand des résultats scientifiques confirment que ces lieux ne sont pas les lieux de, de diffusion de la maladie. Et effectivement, c'est pour aller dans le sens du monde de la culture. Mais je veux leur dire que nous prendrons cela, bien sûr, en compte pour une prochaine ouverture.
Mais c'est quoi une prochaine ouverture? Ça fait des mois et des mois qu'on annonce une prochaine ouverture où il ne se passe rien. Donc du coup, il y a une certaine frustration.
Exactement, je comprends. Mais sauf que depuis des mois, on est passé de la version initiale de la COVID-19 à des variants qui circulent aujourd'hui. Et l'étude qui a été menée, je crains que ça ne soit que sur la variante originelle qu'on connaît. Aujourd'hui, on sait qu'avec les nouveaux variants, la maladie circule très vite et que le problème, ce n'est pas seulement d'ouvrir les salles de culture qui effectivement ne font pas la propagation de la maladie, c'est tout ce qu'il y a autour. Qu'il faut aussi prendre en compte le déplacement de la population qui va y aller et puis les à côté. Mais moi, je les comprends tout à fait et prochainement, j'imagine que c'est... Je ne vais pas donner des dates, mais au moins pour l'été, c'est plutôt en bonne voie en tout cas.
Le député LR Aurélien Pradier et le maire de Cahors, Jean-Marc Vessousfort, veulent demander des ouvertures territorialisées sur les zones qui sont quand même très peu impactées par la maladie, comme notre département. Est-ce que vous êtes pour?
Alors, sur l'ouverture, sur la levée des mesures de façon territorialisée, nous en avons déjà discuté au COPIL avec le préfet du Lot. C'est juste qu'après, ils ont parlé de cette mesure dans la presse. Mais ce que je veux leur dire, c'est que certes, dans le Lot, la maladie circule faiblement en ce moment, mais je veux leur dire aussi de ne pas oublier que nous avons encore au moins 4 personnes aujourd'hui qui sont en réanimation et que nous avons, par exemple, l'école de Ligne qui a été fermée parce qu'il y a un cluster et qu'aujourd'hui, à partir de mercredi, nous allons faire des tests massifs pour pouvoir isoler les cas contacts et les personnes contaminées. Donc aujourd'hui, même si la maladie circule moins vite, il faut vraiment être vigilant. Je pense que nous avons franchi un cap où on va dans le bon sens, mais il faut maintenir ces caps-là. Et n'oublions pas aussi qu'au nom de la solidarité nationale, nous recevons des patients qui viennent, par exemple, de la région PACA. Donc il y a cette solidarité-là qui fait que il faut qu'on soit en mesure d'avoir des lits disponibles pour pouvoir aider les autres. Donc, ça va se faire progressivement et sûrement. Et donc, je leur dis, ne nous emballons pas, allons-y ensemble doucement.
La territorialisation donc des allègements des mesures, ce n'est pas trop la solution pour vous alors?
Alors, ça ne permet pas de prendre une décision... Ce n'est pas une décision de court terme qu'il faut pour ce genre de situation. Parce que, je vous donne un exemple. Si, par exemple, on ouvre les restaurants dans le Lot, pensez-vous que les personnes qui viennent des départements voisins ne vont pas vouloir venir y manger? Voilà, c'est ça. La territorialisation, on peut le faire en travaillant avec le préfet sur vraiment des mesures au cas par cas. Mais on ne peut pas le faire comme ça à travers une décision nationale. Ça risque d'être, à mon avis, compliqué. Il faut peut-être permettre au préfet d'étudier la solution par dérogation.
Huguette Tienna, concernant la vaccination, là c'est vraiment un tout autre chose, mais n'empêche, ça peut peut-être nous aider à sortir de cette crise. On a l'impression, quand on regarde ce qui se passe, que ça rame en France, qu'on a du mal. Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Quand on lit effectivement les commentaires ou autres, on a l'impression que c'est ça en fait.
Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont en campagne aujourd'hui et qu'on a l'impression qu'ils viennent de se réveiller. Le gouvernement a fait tout ce qu'il faut depuis le début pour trouver des vaccins. Je rappelle que les premières commandes ont quand même été passées au moins 6 mois avant le début de la vaccination et qu'à l'époque, personne ne savait qu'on allait avoir des vaccins. Donc, les scientifiques sont allés vite, le gouvernement s'y est mis. Mais il faut savoir que la France, c'est quand même le pays, quand on regarde les statistiques, c'est le pays où les mesures mises en place fonctionnent. Ce n'est pas une question de rapidité. nous, on a choisi de vacciner les personnes les plus fragiles. On a choisi de demander le consentement des personnes. Ça marche. Et c'est ça aussi qu'ils prennent peut-être. Mais nous ne sommes pas en dictature. Donc, dès lors qu'on décide de donner la possibilité aux gens de dire oui ou non, et forcément, ça peut traîner les procédures. Et l'autre frein, c'est aussi logistique dans la mesure où ce n'est pas des vaccins usuels. Le Pfizer, par exemple, il y a les problématiques de conservation. Mais ce qui est heureux aujourd'hui, c'est que les personnels soignants, les élus locaux, chacun se mobilise pour que nous puissions avancer rapidement dans la vaccination.
Ça ne va pas être évident hein, de convaincre tout le monde quand on sait qu'il y a certains pays qui arrêtent le vaccin AstraZeneca, par exemple. Ça ne va pas être facile.
Alors, sur, y a plusieurs vaccins. Il y a le Pfizer qui marche aujourd'hui à peu près à 97%. L'AstraZeneca, c'est vrai qu'il y a quelques études qui sont apparues et qui disent potentiellement qu'il y a peut-être des effets secondaires. Mais il y a des, comme toutes les maladies, il y a des effets secondaires. Je ne suis pas, je suis convaincue que les recherches continuent dans ce sens pour savoir si c'est vraiment dû à AstraZeneca ou si c'est des cas particuliers. Et dans le Lot, pour le moment, nous n'avons pas commencé à vacciner avec l'AstraZeneca. Pour le moment, on est sur le Pfizer. Donc, les Lotois peuvent se faire vacciner. Et s'il y a des inquiétudes sur l'AstraZeneca, ben, on aura le temps de les lever aussi.
Donc on a bien compris, Madame Tiana, qu'effectivement, à la culture, l'État sera toujours là, effectivement, pour les soutenir, hein, si j'ai bien compris, si je pouvais résumer.
Oui, l'État, pour la culture, l'État sera là pour les soutenir, comme il le fait depuis le début. Je me suis moi-même, j'ai eu moi-même beaucoup de réunions avec les acteurs lotois, et nous allons continuer à travailler ensemble pour le monde de la restauration, et du tourisme aussi, parce que la saison touristique va s'ouvrir et que lors de la saison touristique, il y a aussi la culture qui revient avec les festivals. Donc, on sera là à les accompagner. Beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui avec les DRAC et l'interministériel, et je pense que nous allons y arriver tous ensemble.
Vous savez que ça nous fait du bien ce que vous dites, hein, parce qu'on a l'impression, en écoutant votre positivisme, qu'effectivement on arrive au bout et on voudrait bien vous croire en tout cas. Merci beaucoup Huguette Tiana, députée du Lot, La République En Marche, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.
Merci Annick, et merci à vous.
Une interview qui a été enregistrée hier après-midi, juste avant l'annonce de la suspension du vaccin AstraZeneca. Dans quelques instants, on s'arrête et on parle de pompiers, ce petit ours qui fait du bien dans les camions de pompiers.
Huit heures comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. Désertigueule, sensible mais sensible. 6 heures entente mineure sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère.
Bonjour,
crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien. Je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te fais du bien? Quand tu te fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien. Huit heures, un outsider, je t'écouterai sûrement. Voisine qui gueule, on s'ennuie à mourir. 2 heures comme un quart d'heure, tu feras na demain. 9 heures, rien de neuf, non, rien ne bluffe. On se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien. Je crois que ça devient animal.
CFM. CFM Cahors. CFM Cahors. Le mag.
Et de retour dans votre mag, il s'appelle Pompi, il est tout blanc, il porte un t-shirt bleu avec une bande rouge où est inscrit son prénom. C'est un ourson pompier et il est là parce qu'on essaye de l'avoir dans les camions de pompiers pour apporter du réconfort à tous les enfants qui sont effectivement dans le prise en charge par les pompiers. Bonjour Joël Conche.
Bonjour.
Alors, vous êtes membre de l'Union départementale des pompiers du Lot et surtout, et c'est ça qui est drôle, référent Pompi. Alors, Pompi, comment on explique ce que c'est ? C'est une petite peluche, mais qui a un sens particulier.
Alors, effectivement, Pompi, donc, au départ, c'est une petite peluche qui est habillée en pompier. Donc, c'est une initiative de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui a trouvé cette peluche comme vecteur de conversation et entre les sapeurs-pompiers en intervention et les enfants. En clair, donc, ça nous permet de rentrer en contact plus facilement avec un enfant que l'on prend en charge suite à un traumatisme, un accident. Et on entre plus facilement en conversation avec lui et il y a une empathie qui se met en place, en clair.
Donc, quand vous avez un enfant dans votre ambulance de pompier, parce que vous êtes en intervention, vous lui donnez ça automatiquement ou c'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui l'angoisse et du coup, ça, c'est pour le rassurer ?
Alors, c'est un petit peu, je dirais, à l'initiative du chef d'agré ou de l'équipier. S'il sent qu'il y a une petite réticence et que l'enfant se referme ou est angoissé, ben, la peluche lui permet de rentrer plus facilement en contact, de le sécuriser, de le tranquilliser. Et c'est le but. Après, si tout se passe bien et qu'il n'y en a pas besoin, ben, c'est pas automatiquement le cadeau que l'on fait systématiquement si on prend un enfant en charge. C'est plus pour nous faciliter la tâche, pour apaiser l'enfant et rentrer en conversation avec lui. Quand il n'arrive pas à nous dire où il a mal, ben, s'il le montre du doigt sur la peluche, ben, ça peut nous indiquer l'endroit où il a mal et ça nous permet de continuer à faire notre bilan correctement et lui, sereinement pour lui.
Donc vous veillez à faire en sorte qu'il y ait dans chaque ambulance un pompi.
C'est le but. C'est le but, d'où l'intérêt de vendre le maximum de pompis, puisqu'à chaque fois que l'UD vend un pompi, la fédération, en retour, nous envoie autant de pompis gratuitement que l'UD met à disposition du SDIS par l'intermédiaire du 3SM, dont le référent est Michel Taillade, et qui met à disposition dans les VSAV du département.
Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez pu le voir si effectivement ça marchait, cette thérapie, si je puis dire ?
Ben, ça marche, oui, du fait que on nous fait remonter qu'on était limite avec le premier stock qu'on avait de 100 pompis qu'on avait mis à disposition en 2020, tout début 2020, et qu'il n'y en avait plus à disposition dans les VSAV. Donc ça veut dire que le stock était déjà parti et qu'il y avait eu des interventions qui avaient nécessité l'utilisation de cet outil-là. C'est pour ça qu'on a relancé l'opération. Et que dernièrement, j'ai remis au SDIS 200 pompis pour rééquiper les VSAV depuis.
Alors, Pompi, il est à côté de moi, hein, pour tout vous dire. Hein, j'en ai acheté un aussi. Et je suis super étonné parce que c'est une très, très belle peluche qui est douce. Mais c'est surtout aussi, on a l'habitude d'avoir des peluches avec des yeux qui sont des objets à part ou même le nez. Et là, non, pas du tout. C'est de la couture dans le tissu.
Mais c'était le but quand même. On a quand même à cœur de ne pas mettre en danger la vie de nos patients. Et le pompi et les peluches, avec des parties qui pourraient se détacher, pourraient mettre en danger la vie de nos patients. Donc ça a été créé et le cahier des charges a été très strict en ce sens, de façon à qu'il n'y ait aucun élément qui puisse s'en détacher et mettre de fait en danger la vie des enfants entre les mains desquelles on les positionne.
Alors pour décrire à nos auditeurs, hein, Pompi c'est un petit ours, hein, il doit faire je pense 15 cm de hauteur environ. Il est blanc tout doux, il est avec le maillot des pompiers, c'est-à-dire le maillot bleu et avec la bande rouge aussi écrit son nom, et c'est vrai qu'il il est très rassurant, donc c'est comment dirais-je un ambulancier, un secouriste à part entière peut-être.
Ah, tout à fait. Ça, d'ailleurs, il a toute sa place au même titre que n'importe quel autre outil médical de fait, puisqu'il rentre dans la liste des, on va c'est-à-dire des consommables que l'on doit mettre régulièrement à jour dans les VSAV. Et donc, Pompi est un outil au même titre que, un outil comme le brassard, n'importe quel autre outil qui peut être utilisé par les équipiers.
Ça se fait que dans le Lot ?
Alors non, c'est une initiative de la Fédé qui est nationale. Après, chaque département peut éventuellement se l'approprier sous quelque forme qui soit. Dans le département du Lot, nous, on a choisi cette option-là de mettre à profit cet outil et de chercher chez les gens l'empathie pour nous apporter un soutien, parce qu'on n'a pas des moyens financiers de mettre ça en place automatiquement, comme feraient peut-être certains autres départements. On préfère, solliciter les gens, et en plus, ça fait un cadeau intéressant à toute occasion, pour un anniversaire, pour une fête. Pour la Saint-Valentin, on n'y a pas pensé assez tôt, ça aurait pu être un cadeau formidable, un cadeau aux amoureux, un pompier qui, après, viendra équiper nos VSAV.
Et puis, j'ai même envie de dire plus, pour les gens qui sont passionnés, qui collectionnent tout des pompiers, ça peut être aussi un objet de collection aussi.
Tout à fait, ça rentre donc dans les outils d'utilisation des sapeurs-pompiers. Donc, pompier, à ce titre-là, en fait partie maintenant, oui.
Joël Conche, on l'achète où ?
Alors, au niveau du département, donc, vous vous rapprochez de la caserne la plus proche de votre domicile par un pompier que vous connaissez, et il rentrera en contact avec son amicale, et son amicale, on est le relais avec l'UD. Et donc, nous, on en met à disposition des amicales, et les amicales peuvent les vendre, et après, nous reversent la somme à l'UD. Et moi, quand j'ai atteint le quota, je reverse à la fédération, qui me renvoie le nombre de pompiers vendus gratuitement pour mettre à disposition, et je peux en recommander, comme ça, c'est une convention entre la Fédération et l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Lot, qui est reconductible à volonté tant que notre opération a le succès qu'elle a.
Combien coûte pompiers ?
Alors, pompiers, nous, dans le département, on le vend 15 euros. La Fédération, elle le vend 19 euros. Nous, on le vend 15 euros. On ne cherche pas à faire un bénéfice. Nous, le but, c'est d'apporter le soutien aux enfants.
Mais surtout, on le répète, hein, vous achetez un pompier, il y en a un qui ira dans un camion de pompiers. Donc, c'est une œuvre solidaire, hein, tout simplement. Voilà.
Tout à fait.
Très bien, et écoutez, on va voir, en plus c'est vraiment, je vous le conseille, il est très très beau, Pompi, et si vous voulez en savoir plus, il y a même un site internet qui s'appelle pompi.fr, hein, pompi.fr, pour voir la tête qu'il a, et il est super mignon, et maintenant c'est mon compagnon de bureau. Merci Joël Conche.
Merci, et puis je profite pour remercier donc tous les futurs acheteurs, vous faites un geste très très important, remercier toutes les amicales des sapeurs-pompiers du Lot, de tous les centres de secours qui au travers de leur action nous apportent leur soutien, et un grand merci à tous ceux qui de la presse qui diffusent cette information qui nous permet de continuer à étendre cette intervention, et par l'intermédiaire de notre très, très grand François Gomez, qui est notre grand communicant au niveau de l'Union départementale.
Alors, juste pour préciser, l'enfant à qui vous l'avez remis, le pompier, il le garde.
Ah oui, tout à fait. Ah oui.
C'est pas une raison pour avoir un accident ou quoi que ce soit, ou être maladroit, autant l'acheter et l'offrir directement avant de l'avoir dans le camion de pompier. C'est quand même plus sympa. Hein.
C'est quand même plus sympa, mais ça se fait aussi au travers. Il y a déjà eu un reportage là-dessus où il y a une maman qui a été prise en photo avec son gamin dans les bras et le pompier suite à une intervention pendant laquelle il lui avait été remis. Et pour nous, c'est que du bonheur tout ça.
Voilà, rapprochez-vous donc de votre caserne de pompiers pour acheter pompiers, qui est un très, très bel objet, il est tout mignon. Merci Joël Conche.
Merci à vous.
Et Pompi, donc voilà, il est maintenant, il fait partie du studio de CFM Cahors. Ce soir, au programme de CFM Cahors, 19h, l'ouvre-boîte, la rediff du mix de samedi dernier. Et puis nous aurons également le retour des messagers du cheval à 21h, avant la rediffusion de ce magazine à 21h30 et également à 17h aussi. Et puis à retrouver tout cela en podcast sur notre nouveau site internet avec un beau logo et tout. Tout nouveau, tout beau, cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.